Tov, le cours, pas le cours, est l'Eilui Nishmat, Mesaoud Georges Ben Ferae Fani. Alors, Toubishvat, c'est une fête qu'on connaît tous, mais on connaît très peu sur cette fête. On sait bien, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, Shabbat, ce sont des grandes fêtes, et on sait beaucoup de choses sur ces fêtes-là. Elles sont aussi des fêtes qui sont très importantes. Mais Toubishvat, à part qu'on mange des fruits ce jour-là, on ne sait pas grand-chose. Alors bon, on va essayer de dire quelques mots là-dessus, pour en effet expliquer que c'est une fête qui est très importante. Bah, des fois, d'accord, dans la Torah, il y a ce qui s'appelle les mi-fêtes, qui ne sont pas appréciées à leur juste valeur, comme Chol HaMoed, Rosh Chodesh et Toubishvat. Et c'est bon de savoir quelques notions pour en effet pouvoir les aborder, les approcher comme il faut. Alors tout d'abord, on va expliquer l'origine de Toubishvat. Alors comme introduction, on va ramener... Parce que dit la Gemara, d'abord il y a une machloket, une discussion. Est-ce que le monde a été créé Rosh Chodesh Nissan ou Rosh Chodesh Tishri? Pas est-ce que Hachem a créé le monde le premier Nissan ou alors le premier Tishri? Bon, le Massé, c'est déjà expliqué dans plusieurs commentateurs, comme le Ran, qui nous dit qu'en fait, on ne parle pas ici de la création du monde, mais de la création de l'être humain. C'est-à-dire que est-ce qu'Adam Arishon a été créé le premier Nissan ou le premier Tishri? Donc automatiquement, ça veut dire que, d'après ces deux avis, le monde a été créé le 25 Elul. C'est-à-dire que si on considère que le monde a été créé le premier Tishri, que Adam Arishon a été créé le premier Tishri, donc le monde a été créé le 25 Elul. D'après l'autre avis, le monde a été créé le 25 Adar. Bon, le masse entre parenthèses, les Rishonim, pas les Tosfot, ainsi que la Rizal, explique que la discussion, c'est-à-dire qu'il y a une discussion, mais en fait, les deux avis sont vrais. C'est-à-dire que « Elou ve Elou divrei Elokim Chaim ». Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en effet, Hachem a créé le monde en ces deux temps. En Tishri, le 25 Elul est donc le premier Tishri, « Ala ve marchav to livrota olam », Hachem a pensé créer le monde. Évidemment, la pensée d'Hachem, c'est aussi une création réelle. Bon, on ne sait pas à quoi ça correspond exactement, mais c'est aussi une création. Hachem a pensé créer le monde en Tishri, et il a créé réellement les Maasé au mois de Nissan. Donc, les deux sont vrais, n'est-ce pas? Mais ce sont des considérations différentes. Est-ce que c'est dans la Mahasha, dans la pensée, ou alors dans l'action? Bon, mais ça, c'est une parenthèse. Top. Donc là, on ne parle pas de la création du monde et de l'être humain dans la pensée et dans l'action. Mais les Maasé, ça va encore plus loin que cela. Parce qu'on parle ici de la création réelle. On sait, il y a une notion, la Gemara dit par exemple, il y a une notion qui s'appelle Arbaim Yom Lifne Yetzirat Avlad. On dit qu'il y a Yetzira, la création d'un enfant, le fœtus, sa création. En fait, c'est 40 jours après la conception. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on considère qu'un fœtus, il est vraiment créé, vivant, avec une neshama, une âme, c'est uniquement 40 jours après la conception. Mais en fait, ça démarre le début, pas ces 40 jours avant, c'est la conception. Alors pas aussi, on parle ici de la création du monde, Yetzirat Briat HaOlam, c'est la création réelle du monde dans la pensée ou dans l'action. Alors qu'en fait, le monde a commencé à être créé, a commencé à être conçu, 40 jours auparavant. Alors si on prend, n'est-ce pas, 40 jours avant le 25 Elul, ça nous donne Toubé Av, le 15 Av, qui est aussi une fête, n'est-ce pas, dont parle la Mishnah, c'est un autre sujet. Et si on prend 40 jours avant le 25 Adar, ça nous donne Toubishvat. Donc en fait, n'est-ce pas, Toubishvat, c'est le début de la création du monde, c'est la conception du monde, puisqu'en fait, le monde a été créé le 25 Elul, mais là c'est déjà une création réelle, alors que le monde a été conçu auparavant à Toubishvat. C'est pourquoi, pas d'ailleurs, c'est déjà noté, c'est déjà... on fait la remarque déjà dans plusieurs livres sur le Toubishvat, que le jour de Toubishvat, qu'est-ce qui se passe en Israël? Eh bien, il y a ce qui s'appelle Hanitat Aperot, c'est-à-dire que les fruits commencent, le premier bourgeonnement des fruits commence ce jour-là, à Toubishvat, en Israël. Bon, de nos jours, je veux dire, c'est pas évident que c'est vrai pour tous les fruits, n'est-ce pas? Puisqu'en effet, on sait que le monde a été vraiment détérioré, a été transformé depuis la destruction du Beth HaMikdash, Mais c'est ce qu'il y avait auparavant, c'est que tout Bishvat, c'est pas les fruits, tous les fruits en Israël commençaient à bourgeonner. De nos jours, c'est encore vrai pour certains fruits, pas pour tous. Donc, et c'est-à-dire que ça correspond, n'est-ce pas? Ça correspond en effet à la conception du monde. C'est-à-dire que comme le monde a été créé, a commencé à être créé ce jour-là, eh bien, les fruits commencent aussi à bourgeonner ce jour-là. Alors, on va rappeler, n'est-ce pas, entre parenthèses, une notion bien connue au nom du Ramchal, on en a déjà parlé plusieurs fois. Le Ramchal nous dit que lorsqu'on fête une fête de la Torah, que ce soit Pessah ou Shavuot, Sukkot, toutes les fêtes, ce n'est pas uniquement un souvenir ou une commémoration d'un événement qui s'est passé il y a des millénaires, mais c'est plutôt essentiellement cet événement, c'est comme s'il est en train de se renouveler. C'est comme si nous sommes en train de vivre cet événement à nouveau chaque année. Par exemple, Shavuot, alors évidemment, on se rappelle qu'Hachem nous a donné la Torah il y a 3315 années environ, au Mont Sinaï, mais surtout, ça veut dire que chaque année, ce jour de Shavuot, eh bien, Hachem nous donne la Torah à nouveau, encore une fois. Ce jour-là, Hachem nous donne la Torah, c'est un jour pour nous qui est propice pour recevoir, accepter la Torah, et c'est pourquoi on doit auparavant s'y préparer pour pouvoir recevoir la Torah comme il faut. Alors, pas aussi, lorsqu'on arrive à Tu Bishvat, eh bien, ce jour-là, ce jour-ci, Hachem, c'est comme s'il renouvelle la conception du monde. La première création du monde entier, de tous les mondes qu'il a créés, de toutes les galaxies que Dieu a créées, eh bien, le renouvellement, la première conception de tout ce monde-là commence de nouveau à Tu Bishvat. Et c'est pourquoi un des signes qu'on a, c'est que pas les fruits qui viennent en effet ne pas désigner, montrer tout ce qui va fructifier, tout ce qui va pousser, tout ce qui va grandir, tout ce qui va être transformé de façon positive, eh bien, ils commencent à bourgeonner sur les arbres ce jour de Tu Bishvat. Bon, ça c'est ce qui se passe à Tu Bishvat, c'est disons la signification, la définition de la fête de Tu Bishvat. Bon, mais comme on sait évidemment que l'enseignement de la Torah, ce n'est pas un enseignement qui est stérile, qui est uniquement théorique, mais c'est surtout un enseignement qu'on doit pratiquer, qu'on doit carrément faire une projection avec notre personnalité. Parce que pourquoi c'est écrit dans certains livres que Tu Bishvat aussi, c'est un jour qui est très propice, un jour qui est très spécial. Un jour qui est spécial à... on va appeler ça à la métamorphose. C'est-à-dire que si quelqu'un désire de s'améliorer, de progresser, d'avancer, de se transformer, d'être tout d'un coup métamorphosé, eh bien, un des meilleurs jours de l'année, c'est en effet Tu Bishvat. Pourquoi? Puisqu'en effet, le monde a été conçu ce jour-là, il a commencé, n'est-ce pas, à être créé ce jour-ci. Eh bien, c'est écrit aussi « Ha'adam etz asadeh ». L'homme est comparé, n'est-ce pas, à l'arbre de la terre. Eh bien, un être humain aussi peut commencer à bourgeonner, peut commencer à être renouvelé chaque année à Tu Bishvat. C'est-à-dire que Hachem nous donne plusieurs occasions dans l'année de nous renouveler, de nous transformer. Parce que pourquoi c'est écrit? C'est écrit dans les Nevi'im, « Kinar Israël va oaveu ». Pas Hachem déclare et dit, ce que j'aime, n'est-ce pas, chez les bénis Israël, Nahar, que le peuple d'Israël, il a toujours cette caractéristique de l'adolescence, de la jeunesse. C'est-à-dire pas quelqu'un qui est déjà âgé, alors en effet, n'est-ce pas, il perd cette ferveur, cet enthousiasme, il commence, n'est-ce pas, à avoir une routine, une habitude, et pour lui, c'est très difficile, n'est-ce pas, de transformer, de changer quelque chose dans sa vie. Alors que quelqu'un, n'est-ce pas, qui a cet esprit jeune, pour lui, c'est plus facile, il a une certaine souplesse de pouvoir transformer sa vie, de pouvoir opérer certaines transformations dans sa personnalité. Alors, Hachem nous dit qu'en effet, n'est-ce pas que cette caractéristique, eh bien, on peut la voir, on peut la mériter, la garder, la conserver, même à un âge avancé. Parce que c'est une caractéristique que Hachem, il a inculquée en Israël. « Ki nahar Israël va oavehu ». Parce que il y a une caractéristique qui s'appelle « Narut », on peut garder cet esprit de jeunesse, d'adolescence, même à un âge avancé, cette faculté de pouvoir se transformer. Alors, on a certains jours dans l'année qui sont propices, n'est-ce pas, comme Rosh Hashanah, Kippour, on a aussi, n'est-ce pas, certaines fêtes, Pessah, on a aussi Tu Bishvat. Bon, évidemment, chaque fête, c'est d'une facette différente. Alors, Tu Bishvat, en effet, comme on l'a dit auparavant, parce que le jour de Tu Bishvat, eh bien, Hachem renouvelle à nouveau son monde. Il commence de nouveau de créer le monde à partir, pas du numéro 1. Pour nous aussi, on a la possibilité de nous renouveler à partir de Bishvat. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire concrètement. C'est-à-dire que si on veut réaliser un travail concret, un travail qui pourra nous faire avancer concrètement dans la vie quotidienne, eh bien, comment approcher, comment aborder la fête de Tu Bishvat. Comme on l'a dit auparavant, les fruits commencent à bourgeonner le jour de Tu Bishvat. C'est-à-dire, c'est le début, c'est la racine, c'est la base des fruits qui commencent à Tu Bishvat. Pour nous aussi, c'est pareil. Pour un être humain, bien souvent, un être humain fait quelque chose, dit quelque chose, réagit de telle façon ou d'une autre façon. Et bien souvent, lorsqu'on veut essayer de comprendre ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, ou alors ce que notre camarade a dit ou a fait, on va l'interpréter de telle façon, alors qu'en fait, c'est faux. La raison réelle est bien différente que ce que l'on peut imaginer. C'est-à-dire que si on fait une analyse, on va dire, psychologique, eh bien, on peut arriver à une conclusion qu'en fait, n'est-ce pas, la cause, la raison de telle parole ou telle action est bien différente, bien plus profonde que ce qu'on pouvait imaginer. On va donner tout de suite quelques exemples. Mais auparavant, un exemple très simpliste, comme si quelqu'un, imaginez quelqu'un, il a des boutons, n'est-ce pas, il souffre d'acné ou un problème de la peau. Alors qu'est-ce qu'il fait, n'est-ce pas? Il peut évidemment mettre sur sa peau une pommade pour calmer la douleur ou pour même éventuellement guérir les boutons qu'il a. Mais évidemment, c'est une solution qui est simpliste, qui est des fois rapide, mais qui n'est pas une solution en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il a résolu le problème en superficie. Eh bien, le bouton, n'est-ce pas, a disparu, ne fait plus mal, mais quelques semaines, quelques mois après, il va de nouveau apparaître. Pourquoi? Parce que la raison, n'est-ce pas, de sa maladie, elle est toujours présente. S'il ira, par exemple, chez un dermatologue qui est spécialiste, eh bien, il pourra déceler, par exemple, je ne suis pas versé dans la matière, mais par exemple, il pourra déceler que ça peut provenir pas d'un problème au niveau du foie. Des fois, lorsque le foie fonctionne mal, eh bien, ça peut provoquer pas des boutons sur la peau. Et il faudra, n'est-ce pas, il faudra non pas mettre une pommade sur la peau, mais guérir le foie. Donner des médicaments pendant quelques semaines, quelques mois pour faire fonctionner le foie de façon normale. C'est guérir le problème, c'est résoudre le problème en profondeur. Par aussi, lorsque on accomplit la Torah et les mitzvot, ou alors dans notre conduite, de tous les jours avec la société, eh bien, bien souvent, n'est-ce pas, on a envie d'arranger quelque chose. Il y a une mitzvah qu'on ne fait pas très bien, ou alors on se rend compte qu'on se conduit mal avec ses proches parents, avec sa famille, avec les camarades, avec les voisins, et on a envie, n'est-ce pas, d'améliorer nos rapports avec la société. Alors, bien souvent, n'est-ce pas, on est en train de chercher des solutions, mais qui sont superficielles, c'est comme une pommade que tu mets sur la peau. Et là, on te dit, attention, il faut, n'est-ce pas, résoudre le problème à la base, en profondeur. Alors, si c'est vrai pour toute l'année, eh bien, lorsqu'on arrive à Tu Bishvat, eh bien, c'est encore une fois une journée, une période qui est propice pour résoudre les problèmes en profondeur. Pour trouver la raison, la cause du problème, et pour ensuite le résoudre. Alors, on va citer quelques exemples. Premier exemple, la tefila. Bien souvent, on peut se rendre compte que, bon, la tefila, même si on la fait tous les jours, mais on n'arrive pas réellement à se concentrer. On rêve à droite, à gauche, ou alors on fait la tefila, mais ça ne dit pas grand-chose. On n'est pas motivé, ça nous ennuie. Alors bon, alors qu'est-ce qui se passe? Alors des fois, n'est-ce pas, on est en train de faire un effort. J'arrive pas à me concentrer. Alors, je suis en train de je vais réaliser un effort de concentration, comme, n'est-ce pas, me forcer à me concentrer. Alors bon, ça peut marcher, pendant quelques minutes, peut marcher pendant un jour ou deux, Mais à longue échéance, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison qui est plus profonde à cela. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me concentrer dans la tefila? Pourquoi est-ce que je ne suis pas assez motivé par une mitzvah si extraordinaire, n'est-ce pas, qui est de prier devant Hachem? Et là aussi, n'est-ce pas, on peut chercher la raison. On peut la trouver. Il faudra, n'est-ce pas, résoudre le problème à la base. Alors, puisqu'on a parlé de cet exemple, on va expliquer par exemple que pour la tefila, bien souvent, ça peut être le fait, ne pas le fait, que je ne comprends pas ce que c'est la tefila. Je n'arrive pas à comprendre le texte de la tefila. Je récite une récitation sans comprendre ce que je dis. Ou alors, j'ai un problème qui me dérange consciemment ou alors inconsciemment. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il faut que je prie. Enfin, je me dis que Dieu, il est bon. Eh bien, si Hachem, pas, c'est ce qui me manque, eh bien, s'il veut me le donner, il me le donnera. Ou alors, je dis que si je le mérite, je l'aurai. Si je ne le mérite pas, je ne l'aurai pas. C'est-à-dire que comment est-ce que la tefila, elle va pouvoir changer les décrets, les desseins d'Hachem? Ben, des fois, ce sont des questions qui nous dérangent consciemment ou inconsciemment et qui nous empêchent de pouvoir se concentrer dans la tefila ou alors qui nous enlèvent la motivation à la tefila. Je ne vais pas maintenant donner tous les remèdes, parce que ça prendra beaucoup de temps, mais juste donner des exemples dans lesquels on se trompe lorsqu'on fait notre interprétation. On a l'impression, n'est-ce pas, que le problème, il se situe à ce niveau-là, alors qu'en fait, le problème, il est plus profond. Et là encore, tout bishvat, c'est un moment qui est propice pour trouver le vrai problème, à la base, à la racine, et pour trouver aussi le remède, et commencer, n'est-ce pas, à agir dans cette optique-là, pas selon le remède qu'on aura trouvé. On va donner encore un autre exemple. Pas c'est de nos jours, n'est-ce pas, de nos jours, bon, on a souvent tendance à être assez stressé, à s'énerver rapidement. Alors quelqu'un, encore une fois, qui peut se rendre compte qu'il est trop nerveux, qu'il est trop coléreux, et il désire mettre fin à sa colère. Il décide de devenir un homme patient, un homme qui subit, n'est-ce pas, même tous les affronts qu'il doit subir tous les jours, toutes les semaines. Bon, mais il décide de mettre fin à sa colère, parce qu'il se rend compte que s'énerver, être coléreux, non seulement ça n'avance à rien, mais en général, ça ne fait qu'empirer la situation. Top, c'est bien beau. Mais la question est, quel est son remède? Parce que prendre une décision, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas. Alors là aussi, on peut utiliser un remède qui va être superficiel, qui va être peut-être efficace, mais à courte échéance. C'est-à-dire que je prends la décision ferme, que jamais plus je m'énerve, jamais plus, n'est-ce pas, j'élève la voix, et si je suis énervé, je me tais. Bon, c'est bien beau. Mais là aussi, n'est-ce pas, c'est comme si on fait un effort surhumain. C'est comme pas si on est en train de s'enchaîner lorsqu'on veut s'énerver, pas pour ne pas extérioriser sa colère. Bon, c'est aussi une bonne chose, c'est positif, pas, il faut le faire aussi. Mais ça ne peut pas résoudre le problème à longue échéance. Et tôt ou tard, n'est-ce pas, parce que même si on le fait, on ne peut pas, n'est-ce pas, toujours être tenu pas avec des cordes et des chaînes. Et tôt ou tard, cette colère, elle va exploser. Là aussi, il faudra chercher quel est le problème à la base. Et le résoudre, n'est-ce pas, à la base. Alors, par exemple, dans ce cas-là, en général, très souvent, ce qui se passe, pourquoi quelqu'un s'énerve? Qu'est-ce qui nous mène, qu'est-ce qui nous fait qu'on s'emporte pour une raison valable ou des fois pour des bagatelles? Alors en général, ça dépend de certains préjugés. C'est-à-dire que on a en général dans notre conscient ou alors dans notre subconscient, on imagine de quelle façon, de quelle manière je dois être respecté et honoré par mes camarades, mon voisinage, les gens au travail et ma famille, etc. C'est-à-dire que j'imagine qu'on doit me parler de telle façon. J'imagine qu'on doit, n'est-ce pas, me servir de telle façon. Je pense qu'il me revient d'être respecté, d'être honoré, qu'on ait avec moi un rapport de telle ou telle façon. Et automatiquement, dès que cette imagination, elle est déçu, c'est-à-dire que ce que j'avais pensé, imaginé, estimé qui me revenait Eh bien, en effet, je me suis rendu compte que ça ne s'est pas réalisé. Là, j'ai tendance à m'emporter, à m'énerver. Ou alors, n'est-ce pas, je peux espérer qu'un travail doit être fait à temps. Il n'a pas été fait. Alors là aussi, tout de suite, pas, je peux m'énerver, pas sur ma secrétaire, ou alors sur les membres de la famille qui auraient dû faire telle ou telle chose. C'est-à-dire que, pas, inconsciemment, j'avais estimé, imaginé, que telle ou telle chose doit être faite, doit être dite de telle façon, et dès que ça n'a pas été réalisé, eh bien là, je m'énerve, je m'emporte. Donc en fait, le problème se situe à un niveau bien plus profond, pas dans notre subconscient. Quel est, dans notre subconscient, notre imagination, quelles sont, n'est-ce pas, nos images qui sont bien claires et nettes, ce qu'on espère, ce qu'on attend d'autrui, la société. Et là, n'est-ce pas, si on veut régler le problème à la base, à la racine, là aussi, il faudra agir à cette base, à cette racine. C'est-à-dire que pas, c'est bien simple, pas, c'est un travail qui est très simple, il faut uniquement bien le comprendre et le réaliser. Ben, il faudra, par exemple, essayer de transformer ces images. C'est-à-dire, pas, essayer de s'imaginer, voilà, je vais rentrer chez moi à la maison, je vais rentrer dans le bureau de travail, pas, je vais rentrer dans telle réunion, et je m'attends à ce que tel travail a déjà été réalisé, je m'attends à ce que la maison soit très ordonnée, je m'attends à ce qu'on me parle d'une telle façon. Et là, n'est-ce pas, il faudra transformer ces images-là. Non, au contraire, pas. Je m'attends, eh bien, je vais transformer ces images, je ne m'attends à rien du tout. Au contraire, je m'attends à ce que tous les travaux que j'avais demandé de faire, rien n'a été fait. Je m'attends, n'est-ce pas, à ce qu'on m'insulte, à ce qu'on m'offense, pas, etc. Bon, j'exagère un peu, pas, non, pour vous, c'est pour expliquer de quelle façon résoudre le problème à la base de façon catégorique pour être sûr et certain, hein, de ne jamais m'énerver.
C'est pas sûr qu'on va rentrer, mais...
Bon, c'est sûr et certain que pas, chaque cas est à traiter de façon différente. Parce que pas des fois, n'est-ce pas, il ne faut pas aussi devenir passif, indifférent dans la vie. Pas, il faut, oui, que les choses soient faites, etc. Mais lorsqu'on parle des nerfs et de la colère qui sont toujours négatifs, qui n'amènent jamais à rien de constructif et de positif, eh bien, si on veut résoudre le problème à la base, d'abord, n'est-ce pas, il faut transformer les images qui sont déjà bien inculquées, intégrées, ancrées dans notre subconscient, transformer ces images, carrément, n'est-ce pas, les effacer. Ensuite, s'arranger que le travail soit fait, etc., on cherchera d'autres remèdes, d'autres solutions qui sont plus faciles, plus positives.
Est-ce que pour enlever ce décalage avec ce qu'on attend, de respect, etc., est-ce qu'il n'y a pas une notion d'humilité ou de crainte d'Hachem? Vous voyez, c'est être plus humble ou avoir plus de bitachon, de moulage, mais je ne sais pas exactement, mais...
Tu es en train, disons, de proposer, tu as d'autres remèdes à la colère. Bon, c'est vrai, pas, je ne dis pas que c'est le remède unique. Tiens, mais attends, j'ai cité, c'est vrai, ces remèdes-là sont, c'est vrai, pour la colère, c'est que plus on a de crainte d'Hachem, plus on a d'humilité, plus on est persuadé que tout ce qui nous arrive, n'est-ce pas, c'est Hachem qui l'a envoyé, etc., ça peut aussi nous éviter de nous énerver, c'est sûr et certain. Tiens, mais j'ai uniquement pas cité un exemple, pas, de colère qui provient de certains préjugés, de certaines images qui sont ancrées dans notre subconscient. Et lorsqu'on agit dans ces images-là, on peut éviter la colère. C'est pour citer encore un exemple de, disons, de problème qu'il faut résoudre à la base et non pas en superficie. Mais il est vrai qu'il y a plusieurs façons de résoudre le problème. Par contre.
Mais là, on devient pessimiste en quelque sorte. On noircit tout.
Mais... Non. Il ne s'agit pas, au contraire. Pas, au contraire. Enfin, tout d'abord, il faut bien comprendre que... Au contraire, c'est que lorsqu'on s'énerve, c'est là où on devient pessimiste, c'est là où tout est noirci. Parce qu'on, tu vois, parce que plus on s'attend, plus on espère quelque chose, et plus on est déçu, voilà. Et bien c'est là, n'est-ce pas, ce qui va nous amener à la colère et à la tristesse.
Alors,
au contraire, on s'attend à beaucoup moins, et le peu qu'on a reçu, on est très content. Et on remercie. Au contraire, tu vois, c'est une façon d'alléger les problèmes de la vie. Et au contraire, disons, de rendre la vie plus en rose. Attends, je dis pas qu'il faut devenir indifférent à tout ce qui se passe. Il ne faut pas dire, je m'en fiche, n'est-ce pas, que ça soit fait ou pas, non, je n'ai pas dit ça. Mais je parle que lorsqu'on veut résoudre le problème de la colère, eh bien, il y a une façon de résoudre le problème à la base de cette façon-là. Maintenant, ce qu'il doit faire, ce qui doit être réalisé, on cherchera, n'est-ce pas, les façons adéquates de le réaliser. Maintenant, encore un autre exemple qui va vous aider de mieux comprendre cela. Bon, ça rejoint un peu aussi, je dirais, l'exemple précédent, mais c'est dans un autre domaine. Pas très souvent, il y a des gens qui sont sujets à la tristesse, à la mélancolie, au désespoir. Là aussi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de nos jours quand on est triste? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va au cinéma, on va au théâtre, on regarde la télé. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, on est en train de passer la pommade. Parce qu'on se sent mal, on est démoralisé, on a le cafard, comme on dit. Alors, on cherche un moyen d'oublier cette tristesse et d'oublier les causes et les raisons de cette mélancolie. Pas? Et on va rejoindre un monde qui est tout à fait imaginaire, pas comme les films et les médias, etc., pour oublier cette tristesse et plonger dans un monde imaginaire. Mais ça ne va servir à rien. Parce que dès qu'on va rentrer à la maison, ou alors dès qu'on se lève le lendemain matin, on va retrouver les raisons de notre tristesse et notre mélancolie, on va de nouveau sombrer dedans. Non seulement cela, non seulement on n'a pas avancé, mais bien souvent on a régressé. Parce qu'un problème qui n'est pas résolu, ce problème-là, il s'accentue encore plus. Bah, imaginez quelqu'un qui est malade. Alors si il va chez le médecin, il prend des médicaments, il va guérir. Mais s'il ne guérit pas, il ne prend pas des médicaments, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il a mal, il prend, n'est-ce pas, un aspirine pour calmer la douleur. Et donc il oublie qu'il a mal, il oublie son mal. Mais le mal n'a pas été guéri. Le mal va s'accentuer. Par aussi, pour la tristesse, la mélancolie, elle s'installe, elle va être ancrée encore plus profonde. Là, au contraire, pas la façon intelligente de réagir, ça serait, au contraire, il faudra, n'est-ce pas, aborder le problème de face. C'est-à-dire, ne pas se sauver, ne pas s'enfuir, mais chercher quelles sont les raisons de ma tristesse. Là encore une fois, bien souvent, n'est-ce pas, les raisons de la tristesse, de la mélancolie, c'est quoi? C'est de nouveau lorsque nous avons certaines images qui sont bien ancrées dans notre subconscient. Par exemple, j'ai une image bien définie, bien déterminée, consciemment, inconsciemment, que je m'attends à réussir à mes examens. Je m'attends à réussir dans ma vie, dans tel ou tel domaine. Et j'attends que ma réussite, elle soit de tel degré. Pas si je fais une bonne affaire, si je vais dans un magasin, eh bien, je m'attends à gagner telle somme d'argent chaque jour, chaque semaine. Et une fois, n'est-ce pas, que cet espoir, cette imagination, ce désir n'a pas été réalisé, eh bien là, je suis atteint par une déception. Pas là, on plonge dans la déprime, la mélancolie. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait à telle réussite. On s'attendait, n'est-ce pas, à tel bonheur, à tel coup de chance, et on a réussi le contraire. Pas, j'ai joué à la loterie, j'étais sûr et certain de gagner le gros lot, et j'ai rien reçu. Pas, j'ai fait une affaire, j'étais sûr et certain que j'ai fait une bonne affaire, il s'est avéré que j'ai fait une mauvaise affaire. Pas, c'est en général, n'est-ce pas, une des raisons essentielles de la tristesse, pas désespoir, etc. Et là aussi, n'est-ce pas, il faut agir, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Là aussi, n'est-ce pas, il faudra transformer ces images que nous avons, pas ces images qui sont ancrées bien profondément dans notre subconscient, il faudra éventuellement les transformer. Pas encore une fois, il ne s'agit pas de devenir indifférent à tout ce qui passe dans la vie, pas, mais au contraire, il faudra changer d'optique. Il faudra voir le monde de façon différente. Pas. Par exemple, pas, très souvent, pas, c'est bien connu le machal, que lorsqu'une bouteille... Pas, une bouteille, elle est à moitié pleine et à moitié vide. Les deux, n'est-ce pas, sont vrais. La question, c'est qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que le côté plein ou le côté qui est vide? Pas. Vous prenez encore un autre exemple. Deux enfants, deux frères jumeaux qui sont sur la plage et tout d'un coup, une vague vient les submerger. Alors, un des enfants se met à pleurer et à réclamer sa mère, alors que l'autre enfant, il éclate de rire et court de nouveau vers les vagues. Alors là, on se pose la question, Qu'est-ce qui a fait pleurer cet enfant? Est-ce que c'est la vague? Non, impossible. Parce que si la vague, n'est-ce pas, lorsqu'il a bu la tasse, il pleure, eh bien son frère jumeau aurait dû réagir de pareil. Pourquoi son frère a rigolé et lui a pleuré? Donc ce n'est pas la vague qui fait pleurer ou rire, mais c'est la façon dont tu vas interpréter l'événement qui t'est arrivé. C'est-à-dire la façon dont une personne va communiquer avec, n'est-ce pas, son subconscient, c'est ce qui va provoquer la joie ou la tristesse, le bonheur ou alors la déception, le rire de l'enfant ou alors les pleurs de l'enfant. C'est-à-dire que chaque événement a toi libre de l'interpréter de telle ou telle façon. Donc là aussi, c'est faux de considérer que c'est tel événement, n'est-ce pas, qui t'a amené à la tristesse ou alors, n'est-ce pas, au bonheur. C'est la façon dont tu l'as interprété. Là aussi, il faut traiter le problème à la racine, à la base. Bon, je ne dis pas, c'est sûr et certain qu'il y a certains événements qui sont plus portés à être interprétés de façon positive et d'autres de façon négative, n'est-ce pas? Mais même dans ce cas-là, même un événement qui est dramatique, qui est négatif, nous avons toujours la possibilité de l'interpréter selon notre volonté. On peut, n'est-ce pas, encore plus dramatiser, ou alors on peut limiter le côté dramatique. On peut agrandir, accentuer le côté, n'est-ce pas, le côté chance et bonheur de l'événement, ou alors on peut avoir tendance à le minimiser, ça dépend de nous. Là aussi, n'est-ce pas, ça dépend de la façon dont on va interpréter tout cela. Bon, enfin, c'est un sujet à part qui est assez vaste. Je rejoins un autre sujet pour terminer. Donc, Toubishvat, n'est-ce pas, c'est une période qui est propice à transformer la façon dont on interprète les événements. C'est-à-dire ne pas vouloir régler le problème en superficie, mais au contraire le régler, le transformer à la base et à la racine. Parce qu'on ne sait pas Toubishvat, c'est là où le monde est renouvelé, c'est là où les fruits commencent à bourgeonner, c'est ce jour-là que Hachem a vraiment réellement commencé à créer le monde. Et bien pour nous aussi, nous avons la possibilité ce jour-là d'être de nouveau créés, d'être renouvelés encore une fois. Carrément de procéder à une métamorphose en soi. Alors, en fait, pas Toubishvat, c'est le jour, en effet, le plus important par rapport à cela. Mais en effet, ça se propage jusqu'au 25 Adar. En fait, cette idée, elle est valable pendant les 40 jours, n'est-ce pas, dans lesquels, qui consiste à la procréation, n'est-ce pas, du fœtus, à la procréation du monde entier. Par aussi pour nous, c'est comme si on est en train de commencer la création de notre personnalité à partir de Toubishvat jusqu'au 25 Adar. Donc on a 40 jours dans lesquels on a la possibilité de transformer réellement notre personnalité. Ça ne dépend pas de la façon dont on va travailler pendant ces jours-là.
D'après ce que vous dites, alors le jour de Toubishvat, c'est propice pour une introspection de l'homme. Donc on aurait dû instituer que l'homme il fasse tshuva ou instituer des actes qui vont l'aider à faire cette introspection. Quel est le sens de manger des fruits et tout ça? Est-ce que ça va nous permettre une introspection ça?
Top.
Quels sont les actes que l'homme peut faire pour justement être métaken les choses à la base? Puisque, comme vous avez dit,
Ce que tu dis, bon, c'est dans plusieurs livres qu'en effet, Toubishvat, c'est aussi un jour de tshuva. Mais cependant, c'est un tshuva mitor simcha ou mitor Odaï à Hachem, c'est-à-dire passer une tshuva, mais dans la joie et aussi dans le fait de remercier Hachem. C'est-à-dire que cette introspection, elle doit être réalisée. Mais elle doit démarrer d'une façon différente. C'est-à-dire qu'on doit démarrer d'abord par la prise de conscience que Hachem a commencé à créer le monde ce jour-là. Et Hachem renouvelle son monde ce jour-là. C'est bien aussi, c'est écrit de contempler dans les arbres qui sont carrément dénudés en hiver, n'est-ce pas? Et puis moi, il n'y a carrément rien du tout. C'est comme, n'est-ce pas, une triat ametim. C'est comme la résurrection des morts, de voir, n'est-ce pas, que de nouveau, tout commence à fleurir et à pousser, pas à partir de Toubishvat. Et c'est là où on prend conscience de la création du monde d'Hachem. Comment se rendre compte que nous avons été créés? Il faut le voir autour de nous. C'est très difficile de réaliser une introspection sur nous directement. Il faut d'abord commencer par contempler le monde que Hachem a créé, être fasciné par la création du monde. Maintenant, le fait de ne pas manger des fruits, c'est aussi le même principe. C'est-à-dire que Il faut agir concrètement et aussi verbalement pour pouvoir prendre conscience de cela et remercier Hachem. C'est-à-dire que pour remercier Hachem du monde extraordinaire qu'il a créé, eh bien, il faut prendre goût. Il faut le goûter, il faut l'apprécier pour le remercier. C'est pourquoi on s'écrit que c'est bien de goûter un peu de tous les fruits qu'on a. Pas, bon, c'est un kiss qui se met de prendre une trentaine de fruits, n'est-ce pas? Il y a plusieurs catégories de fruits. Il y a des fruits qui ont une écorce, pas une peau, à l'extérieur. Il y en a qui ont un noyau à l'intérieur. Il y en a qui n'ont rien du tout, n'est-ce pas? Il y a trois catégories de fruits. Alors, c'est bien de prendre pas 10 fruits de chaque catégorie. Pas des fruits qui n'ont aucune peau, aucun noyau, comme par exemple pas les fraises. Des fruits qui ont uniquement des noyaux. Et des fruits qui ont une peau à l'extérieur ou le noyau, qui ont les deux, c'est pareil. Bon, il y a aussi encore un autre inyan, c'est écrit que c'est quand on fait la brachot, on introduit, n'est-ce pas, de la kdusha dans les fruits, ce qui va aussi nous permettre de nous transformer par la kdusha. Parce que la transformation, elle se réalise et par le da'at, n'est-ce pas, et par la prise de conscience, la compréhension, l'analyse et psychologique, mais aussi par le fait de sanctifier notre corps. Et la sanctification, elle démarre par les brachot. Parce que parce qu'en effet, bon, un des éléments qui nous amène à être trop matérialiste, c'est le fait, disons, de trop être attiré par les plaisirs de ce monde-là. Alors pour éviter ce côté matérialiste, eh bien, il y a la sanctification qui se fait par les brachot. Chaque fois qu'on récite une bracha sur un fruit, sur un aliment, ça nous permet d'éviter de sombrer dans le côté matériel de ce monde-ci. Ça sanctifie le fruit, l'aliment, et ça sanctifie aussi notre corps. Et moi, c'est encore un plaisir.
L'homme devrait faire beaucoup de bracha ce jour-là sur les fruits.
Non, c'est écrit que c'est bien pas de manger beaucoup de fruits ce jour-là, plusieurs catégories de fruits, et de remercier Hachem de faire des brachot, bien évidemment, Kavana.
Il y a une catégorie de fruits spéciale, genre les fruits de Israël, je crois.
Les 7 fruits d'Israël, tout d'abord. À part ça aussi, au total, c'est écrit que c'est bien de manger une trentaine de fruits. Tu as 10 fruits qui n'ont pas ni noyau ni peau, 10 fruits qui ont que le noyau, et 10 fruits qui ont une peau avec noyau ou sans noyau. Ça, c'est bien de le faire, si on peut.